4, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire, on retrouve Patrice Gélinet. Bonjour, aujourd'hui la forme la plus extrême de la collaboration avec l'Allemagne nazie, les SS français.
Eh bien nous sommes maintenant parmi tous ces jeunes qui se sont engagés dans les Waffen-SS et qui vont partir. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans les Waffen-SS ?
Je me suis engagé dans les Waffen-SS pour aller d'abord combattre le bolchevisme.
Pour combien de temps êtes-vous engagé ? Vous êtes engagé
à la victoire.
Vive la France ! Vive la France !
Les Français peuvent contracter un engagement volontaire pour combattre le bolchevisme dans les formations de Waffen-SS constituées par le gouvernement allemand. En signant ce décret le 22 juillet 1943, le chef du gouvernement français, Pierre Laval, permettait l'engagement de 7000 volontaires qui, entre 1943 et 1945, sont allés se battre sur le front de l'Est. Ils étaient français, mais ils portaient l'uniforme allemand, et sur leur col, les deux lettres d'une organisation tristement célèbre, l'élite du parti nazi, l'ASS. Jamais, pendant l'occupation, les Français ne sont allés aussi loin dans la voie de la collaboration. Même pas ceux qui s'étaient déjà engagés aux côtés de l'Allemagne, dans la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, la LVF, créé juste après l'invasion de la Russie en 1941.
La Légion des volontaires français contre le bolchevisme s'est constituée. Sa première réunion a lieu au Vélodrome d'hiver.
La lutte qui est ouverte contre le bolchevisme doit se terminer par son écrasement. Sans l'écrasement du bolchevisme, pas d'Europe. Ce conflit nous intéresse en tant qu'Européens, mais il nous intéresse aussi en tant que Français. Disons-le tout net, si la France veut rester une puissance européenne et mondiale, si la France veut rester digne de l'Europe, il faut qu'elle se batte avec elle contre le bolchevisme. Il n'y a pas d'autre issue pour nous.
Les bureaux d'engagement ont été ouverts aussi bien en zone occupée qu'en zone non occupée. Le bolchevisme battu fera l'Europe unie.
Pierre Giolito, bonjour. Vous êtes historien et auteur d'un livre qui vient d'être édité en poche chez Perrin, Volontaires français sous l'uniforme allemand. Ces Français donc qui, pendant la guerre, ont porté l'uniforme de l'armée qui occupait leur pays et qui se sont battus à ses côtés, d'abord dans la LVF et puis plus tard, nous en parlerons plus longuement, dans les SS, qui est une forme de collaboration tellement grave dans les deux cas que même à Vichy, où Pétain avait prôné la collaboration, eh bien certains ont désapprouvé cet engagement.
Tout à fait. Ce qui peut paraître curieux à première vue, c'est que des jeunes, des personnes, des hommes qui voulaient se battre contre l'Allemagne, pour l'Allemagne, pardon, lorsqu'elle était en lutte contre l'URSS, la Russie, étaient obligés de demander l'autorisation à l'Allemagne et que l'Allemagne était fort réticente. Alors pourquoi cette réticence ? Je crois qu'elle est simple, à savoir que les Allemands craignaient toujours les Français et craignaient notamment le réarmement des Français. Et ils se disaient que si il y avait une armée en somme française qui se batte au sein de l'armée allemande, cela risquait de provoquer des troubles au sein de l'armée allemande.
L'Allemagne était d'autant plus réticente qu'à l'époque, son armée l'emportait partout. Là, en 1941, disons que les choses vont plutôt bien pour la Wehrmacht. Mais je vous posais aussi la question du régime de Vichy. Lui-même semble hésiter. Pétain n'est pas tellement enthousiaste. Et en fait, ce qui a poussé à la création de cette première unité qui s'est engagée aux côtés de l'armée allemande, la LVF, ce sont les collaborateurs comme Jacques Doriot, que l'on a entendu tout à l'heure.
Effectivement, ce qu'il faut dire, c'est qu'en France, il y avait donc deux types de collaboration. Il y avait la collaboration d'État, qui a été mise en œuvre par le maréchal Pétain, à la suite de sa rencontre avec Hitler à Montoire, qui était une collaboration, en somme, institutionnelle, à la limite, je ne devrais pas dire ça, mais par rapport à l'autre dont on va parler, un peu bon enfant. C'était une collaboration politique, économique, avec notamment les travailleurs français qui étaient déportés pour travailler en Allemagne, et également culturelle, mais ça n'était pas une collaboration militaire. Or, il y avait une partie des organisations minoritaires, mais très agissantes en France, qui étaient ce qu'on appelait les collaborationnistes, qui, eux, voulaient une collaboration bien plus précise, bien plus intime avec l'Allemagne, qui voulait, au fond, installer en France un régime national-socialiste comme en Allemagne. Et alors, pour cela, ceux-là voulaient une collaboration militaire. C'est-à-dire, ils voulaient que la France s'engage militairement aux côtés de l'Allemagne, contre la Russie, et puis, pourquoi pas, certains pensaient, contre l'Angleterre.
Alors, il y a eu la LVF, la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, qui était commandée par le colonel Labonne, puis ensuite le colonel Puyot. Il y a eu aussi d'autres Français qui se sont battus aux côtés des Allemands dans le cadre de l'armée allemande. Il n'y a pas que la LVF ou l'ISS dont on parlera tout à l'heure. Il y en a eu d'autres.
Il y en a eu d'autres. Mais ce qu'il faut dire, déjà, on a entendu Doriot tout à l'heure, le grand Jacques, comme on l'appelait. Eh bien, ce grand Jacques, il est parti combattre les Allemands.
Ancien communiste, il faut le rappeler.
Ancien communiste.
Créateur du PPF, qui est devenu un parti ultra-collaborationniste.
Le Parti populaire français, oui. Et qui est allé combattre vraiment sur le front de l'Est. Qui en a souffert, bavé d'ailleurs, mais Malence un peu interrogé à son propos. Est-ce que c'était simplement de la frime, hein, pour montrer que le PPF était en première ligne, ou est-ce que vraiment il y croyait? Ce qui est sûr, c'est que le PPF a mis la main sur la LVF, ouais, et que la LVF était Doriot. Oui, alors bien sûr qu'il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, et il y a eu notamment une autre légion un peu étrange, c'est la légion tricolore. Parce que le gouvernement et Pétain, bien que Pétain ait donné son aval finalement, mais du bout des lèvres, finalement, il y a eu d'autres légions, et notamment une légion qui s'appelait la légion tricolore. Pourquoi tricolore? Parce qu'on a voulu, comme cette LVF était étrangère au gouvernement, était dans les mains d'opposants, les collaborationnistes étaient des opposants, donc on a voulu créer une légion qui soit authentiquement française, qui se batte sous l'uniforme français, et donc qui puisse accroître la collaboration avec l'Allemagne. Mais ça a complètement raté.
Alors il y a eu d'autres expériences, il y avait aussi des Français qui se battaient dans l'aviation allemande, dans la marine allemande, il y a eu aussi une phalange africaine qui est venue aider les Allemands au moment où ils se battaient en Tunisie après le débarquement en Afrique du Nord. Mais cela, c'était justement au moment où les choses commencent à tourner mal pour l'armée allemande, à partir de 1942-1943, et puis qu'elle accepte finalement de recruter, d'enrôler dans les SS des contingents de volontaires mobilisés dans les pays qu'elle occupait, encouragés par le ministre de la propagande d'Hitler, Joseph Goebbels.
Êtes-vous décidé à suivre le Führer dans sa lutte pour la victoire, et pour cela, prêt aux sacrifices les plus grands?
Il y a 15 jours, un entrefilet dans les journaux annonçait que le gouvernement autorisait les jeunes Français à s'engager dans les formations des Waffen-SS, formation d'élite de la Wehrmacht. C'était un pas de plus de la France dans la lutte contre le bolchevisme. 15 jours se sont écoulés, au cours desquels les engagements se sont faits de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, le premier contingent de Waffen-SS français va quitter la France pour aller prendre sa place au premier rang des armées européennes.
Quand on est un salaud, un vrai, un pur, un beau, se met au service de la maison Himmler.
De la maison Himmler.
Puis on fait le serment d'obéir totalement, quels que soient ses caprices, aux ordres du Führer.
Aux ordres du Führer.
La croix gammée sur l'œil, on montre avec orgueil qu'on est un grand champion dans la course à l'abjection. Voilà les gars de la vermine, chevaliers de la facette, voilà les Waffen-SS, voyez comme ils sont fiers mine, c'est dans le genre crapuleux ce qui se fait de mieux. Avant qu'on ne les extermine, regardez-les consciencieusement, voilà les gars de la vermine. Du plus petit jusqu'au plus grand, du simple voyou à Darnan, ils sont allemands.
les gars de la Vermine, c'était Pierre Dac à la radio de Londres, brocardant les Français qui se sont engagés à partir de 43 dans la Waffen-SS et qui vont beaucoup plus loin que la LVF. Là, il s'agit d'une armée politique, ce qui appartient à la SS, Pierre Jolitot. Ce n'est pas rien, cet engagement.
Effectivement, les Waffen-SS sont bien sûr des militaires, des soldats, les meilleurs de l'armée allemande, mais ce sont aussi des hommes politiques, des vecteurs politiques, c'est-à-dire des gens qui, partout où ils passent, partout où ils combattent, sont chargés non seulement de combattre le bolchevisme, mais également de propager la doctrine nationale-socialiste.
Alors c'est une branche armée de la SS qui avait été créée dans les années 20, à l'époque où Hitler était encore dans l'opposition en Allemagne, et puis qui se constitue en partie en armée. Alors il ne s'agit pas pour cette armée de, ce ne sont pas des gardiens de camp hein, qui sont à part, il s'agit de se battre, et pour ce qui concerne les Français qui, à partir de 1943, peuvent adhérer, entrer dans la SS, de ne se battre que sur le front russe, hein, qu'à l'Est. C'était la seule condition qui a été mise par le gouvernement français.
Effectivement, oui, parce que certains auraient envisagé de faire que cette nouvelle phalange lutte contre les ennemis de l'intérieur. Parce qu'il y avait les ennemis de l'extérieur, c'était le bolchevisme, c'était les Russes. Mais il y avait aussi les communistes à l'intérieur qui étaient aussi un ennemi.
Les ennemis de l'intérieur du point de vue de Vichy. Hein.
Ah ben, bien sûr, bien entendu. Ce qui d'ailleurs, on peut être surpris aujourd'hui de voir combien des jeunes se sont lancés ainsi dans une aventure vraiment désespéré.
On est surpris de voir aussi que finalement, il n'y a pas qu'en France que les SS ont recruté. Beaucoup de pays occupés ont vu aussi des nationaux, que ce soit en Suède, que ce soit en Norvège, que ce soit au Danemark, en Belgique, adhérer à la SS alors que leur pays était occupé par les Allemands.
Tout à fait. Il y a eu effectivement d'autres légions que les Waffen-SS français. Il y en a eu en Belgique, avec De Grel notamment.
La division Wallonie,
hein, avec De Grel, qui était un des grands de la collaboration. Et puis, il y a même eu une petite unité française bretonne, des Bretons qui étaient en opposition avec, qui voulaient leur autonomie, leur indépendance, et qui ont trouvé moyen de s'engager là-dedans.
Il y avait des Scandinaves aussi de la division Viking, les Hollandais de la division Nordland, des Suisses, des Ukrainiens, il y avait même, ils étaient une poignée, des Américains et des Anglais, si peu nombreux, qui n'avaient pas une division pour eux.
Oui.
Mais il y avait vraiment... Alors il fallait bien sûr qu'ils obéissent à des critères raciaux dont on parlera, et puis il y avait donc justement ces Français de ce qu'on appelait à l'époque la brigade Frankreich, qui deviendra plus tard la division Charlemagne, et qui partait de la gare du Nord ou de l'Est pour rejoindre le front.
J'ai devant moi quatre Français, quatre Waffen-SS qui vont partir tout à l'heure. Eh bien, quelles sont vos dernières impressions ?
Les impressions sont très bonnes. Je suis content d'aller dans les SS et j'espère combattre pour la France.
C'est magnifique, vous êtes tous pleins d'un enthousiasme. J'en vois qui se penchent par la fenêtre. Il y en a un qui fait partie d'ailleurs des milices françaises. Je vais essayer de m'approcher et de leur faire dire quelques mots. Ancien collaborateur de la France au travail, je suis mort au juif. Milice française, je vous le montre que l'Europe vaincra.
C'est plus qu'émouvant. Devant ce train qui va s'ébranler dans quelques secondes, tous les SS sont penchés à la fenêtre, le bras tendu. Sur le quai, la foule chante la Marseillaise, le bras tendu. On ne peut pas décrire l'atmosphère qui règne ici, c'est plus que poignant. Il suffit de les écouter. Et voilà, vous entendez le train qui s'éloigne.
Pauvre Marseillaise, hein, chantée en 1943 par des Français qui étaient en uniforme allemand, Pierre Jolitot, et qui partaient pour le front de l'Est. Alors, combien ont-ils été d'abord et quelles ont été leurs motivations ?
Oui, ils n'ont pas été très très nombreux, encore qu'il y avait quand même 7000 jeunes qui se sont engagés dans la Sturmbrigade Frankreich, c'est-à-dire les Waffen-SS. Ils n'étaient pas très très nombreux, mais ils étaient d'une motivation... Enfin, aujourd'hui, on a peine à croire que des jeunes qui souvent étaient d'ailleurs un peu des intellectuels, étaient des étudiants, par exemple. Il y avait beaucoup d'étudiants à la Frankreich. Pourquoi est-ce qu'ils se sont allés se battre dans des conditions atroces sur le front russe?
D'autant plus, vous le rappelez, qu'en 1943, les conditions ne sont pas du tout les mêmes qu'en 1941. En 1943, eh bien, c'est Stalingrad, c'est fini, c'est le début de du recul. Enfin, le sort de l'Allemagne ne fait plus de doute. Donc, il n'y a évidemment aucune espèce d'opportunisme dans un engagement qui est quasiment désespéré.
C'est vraiment un engagement, j'allais presque dire, moral. Effectivement...
Oui, enfin, ça dépend quelle morale.
Non, mais à leur point de vue.
De leur point de vue,
oui. À leur point de vue. Il y avait d'ailleurs des chrétiens parmi eux. Et ils pensaient que lutter contre la doctrine athée du bolchevisme, c'était une manière de rendre grâce au ciel. Franchement, certains en étaient là. Ça nous paraît aujourd'hui incroyable, mais c'était comme ça.
Des aventuriers aussi, vous le dites.
Il y avait des aventuriers. Mais par rapport aux autres, à la LVF par exemple, où il y avait un peu n'importe qui, parce qu'on prenait un peu tout le monde, ici il y avait une sélection qui était très stricte, aussi bien sur le plan intellectuel, moral, que sur le plan physique.
Mais il y avait aussi une chose qui est importante, ce sont les convictions politiques qui sont passionnément anticommunistes. D'ailleurs, la propagande les recrutait en disant « Venez lutter contre le bolchevisme ». Ils sont très antisémites, on l'a vu, et ils appartenaient presque tous, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, à toutes les organisations collaborationnistes dont on parlait tout à l'heure, Pierre Giolito.
Bien sûr, bien sûr. Et notamment au PPF de Doriot. Si bien que certains, effectivement, ne juraient que par Doriot. Et que Doriot allant combattre, ils allaient combattre eux également. Et effectivement, il y avait cet aspect aussi, même s'ils sentaient que c'était perdu, que l'Allemagne était perdue, mais ils voulaient s'engager néanmoins par une espèce de sursaut de gloire un peu stupide, disant « je vais perdre, mais je vais gagner dans l'avenir, parce que mes idées vont gagner ».
Et puis il y avait une fascination aussi, justement, puisque vous parlez de ça, pour la force de l'armée allemande, l'idéologie nazie et son chef, auquel les SS français devaient, comme les Allemands, prêter serment, comme l'a fait d'ailleurs l'un d'entre eux, Christian de Lamazière, auquel, il y a une quinzaine d'années, j'avais demandé pour France Culture les sentiments qu'il avait éprouvés le jour où il avait prêté serment à Hitler en allemand, Christian de Lamazière.
La prestation de serment, alors là, c'est un peu comme cette époque où, au Moyen-Âge, on adoubait, on faisait un chevalier, et on l'adoubait. Il rentrait dans une famille de pensée, et à travers cela, il fortifiait l'honneur qu'il avait eu d'accepter l'uniforme, les couleurs de son clan. C'était solennel, discret, imposant, et je trouve merveilleux.
Adolf Hitler, ich schwöre dir, Adolf Hitler, als Führer.
Je te jure, Adolf Hitler, Führer germanique et réformateur de l'Europe, d'être fidèle et brave. Je jure de t'obéir à toi et au chef que tu m'auras désigné jusqu'à la mort. Que Dieu me vienne en aide.
Étonnant d'entendre Christian de Lamazière dire que c'était merveilleux de prêter serment à Hitler ou et au SS, enfin en tant que SS, quand on sait toutes les atrocités commises par les SS pendant la guerre. Et alors, ils étaient, comme les autres SS, triés sur le volet, vous le rappelez, Pierre Giolito. D'abord, il y avait des critères très stricts. Ils devaient avoir entre 17 et 40 ans. Beaucoup d'entre eux étaient d'ailleurs jeunes. La moyenne était très jeune, ce qui explique aussi peut-être cette espèce d'engagement irraisonné qu'ils ont à cet âge-là.
Tout à fait. Certains nous racontent que, étant étudiants, étant même lycéens, ils ont lu des livres qui vantaient l'Allemagne, qui vantaient les mérites, la solidité, la rudesse des hommes allemands, des militaires allemands. Ils adoraient, ils étaient littéralement en adoration devant ces militaires allemands et voulaient les imiter.
Alors il y avait comme critère le critère racial, il n'était pas question qu'ils aient une parenté, une ascendance juive, hein, c'était très strictement surveillé, une taille minimum, vous le dites. Ils se faisaient tatouer sous les bras leur groupe sanguin, comme tous les SS, ce qui d'ailleurs représentait un risque, parce qu'évidemment après la guerre c'était le moyen de reconnaître les SS, et quand ils tombaient évidemment entre les mains des Alliés ou des Russes, eh bien leur sort étaient réglés. Puis alors, ils étaient soumis aussi à un entraînement très dur dans des camps d'entraînement où ces SS français ont fait la fierté de leurs instructeurs allemands.
Et voici que de nouveau nous parviennent du camp d'instruction d'Allemagne où les Waffen-SS français s'apprêtent à devenir des soldats européens. Quelques reportages. Voici une interview bien intéressante. Celle de l'officier qui a commandé l'instruction des Waffen-SS français.
Nous avons eu une très bonne impression des jeunes soldats français. Et ils sont venus ici avec toute la bonne volonté. Ils se sont trouvés dans des situations un peu étrangères, mais ils s'y sont trouvés. Ils ont donné beaucoup de soin au sport, parce que là, on peut développer bien des qualités de soldats.
Voici maintenant que l'instruction est terminée pour beaucoup des Waffen-SS français. Sous les acclamations de la foule allemande, ils partent pour la gare qui les emmènera vers le front.
C'est pas la victoire qui va attendre CSS français qui chantait, effectivement, c'était leur chanson, Monica, petite Monica, et qui chantait en partant sur le front. D'abord, ils sont partis en Galicie, c'était la brigade Frankreich qui a subi des pertes considérables, Pierre Giolito, dès le mois d'août 44.
Oui, ça a duré 3 semaines, ouais. Et ils ont été véritablement décimés, massacrés. Encore que, pourtant, c'était des soldats qui, par rapport à ceux de la LVF, étaient meilleurs, parce qu'ils avaient été bien entraînés. Mais face au bulldozer de l'armée soviétique, et puis il faut dire que l'armée allemande était en pleine déroute, elle aussi.
Alors, dès le mois d'août, elle est vraiment décimée, cette brigade Frankreich, et Himmler, qui est le chef des SS, décide de la reconstituer, en tout cas une nouvelle unité française. La brigade Frankreich va devenir la division Charlemagne, le mot est peut-être un peu grand parce que il n'y avait pas les effectifs d'une division, mais alors en accommodant les restes, hein, c'est ce que vous dites dans un chapitre de votre livre, parce que cette brigade, cette division maintenant Charlemagne, commandée par le colonel Puot qui commandait la LVF déjà, eh bien cette brigade, cette division Charlemagne, pardon, était faite des restes de la Frankreich, des militaires qu'on avait trouvés un peu partout, des Français qui se battaient dans l'armée allemande, et surtout des miliciens qui vont y entrer à partir du mois d'août-septembre 1944.
Alors ça,
la milice de Darnand.
Ça, c'est la grande nouveauté. La milice de Darnand, qui était un organisme gouvernemental chargé de poursuivre en France ce qu'on appelait les terroristes, c'est-à-dire essentiellement, évidemment, les résistants, cette milice avait, au moment de la débâcle, avait rejoint l'Allemagne. Et Darnand les avait rassemblés à Ulm, où ils ne savaient d'ailleurs pas trop qu'en faire, alors ils avaient quelques activités d'entraînement, etc. Et puis, finalement, lorsque l'Allemagne a eu un besoin évident de troupes supplémentaires, on s'est dit, mais ces gens-là, ils sont là, ils ne font rien, ils sont hébergés par l'Allemagne, pourquoi ne les embrigade-t-on pas? Et c'est ainsi qu'on les a mis dans la Charlemagne, aux côtés des restes de la LVF ou des restes de la Frankreich.
Joseph Darnand, en août 44.
Comme vous, mes camarades, je ne regrette rien, je garde ma foi entière en notre destin, qui est celui de notre patrie. J'exige tous les miliciens des francs-gardes une absolue discipline, la discipline joyeuse du militant devenu soldat. Je veux que vous gardiez dans vos actions quotidiennes la haute idée de la grandeur de notre mission. Je suis à votre tête et je serai désormais près de vous, parmi vous pour cette dernière lutte qui, j'en suis sûr, nous conduira à la victoire.
Nous vous présentons aujourd'hui quelques extraits de la déclaration du colonel Puot.
Lorsque nous sommes partis aux opérations et qu'on a mis sous mes ordres de l'artillerie allemande, des chars blindés allemands, des pionniers allemands, des cavaliers allemands, des transmissions allemandes, croyez-vous que j'étais battu ce jour-là? Eh bien, j'ai dit non, je ne suis plus un battu, je suis un officier, tout court. Et alors, un pays comme le nôtre ne serait pas fichu d'envoyer quelques milliers d'hommes là-bas pour que l'armée française commence à revivre, pour que notre pays, au lieu d'être dans la pourriture, dans la tactique, accroché à je ne sais qui, redevienne la France tout court? Eh bien, ça n'est pas possible.
C'était le colonel Puot, devenu Oberführer Puot, que chef de la Charlemagne en réalité était plutôt commandé d'ailleurs par un Allemand qui s'appelle Krückenberg, vous le rappelez, Pierre Jolito. Mais cette division qui s'est battue jusqu'au bout, d'ailleurs il y a eu des engagements jusqu'au bout. Lamazière, par exemple, qu'on a entendu, s'est engagé en 44, c'était en août 44, c'est-à-dire après le débarquement en Normandie. Là c'est complètement désespéré, c'est même absurde.
Oui, c'est absurde, on a du mal à le comprendre aujourd'hui, mais ce qui montre la puissance de l'idéologie qui pouvait tenir ces gens-là. C'était des fous furieux d'idéologie, et pour eux, Hitler, c'était le créateur d'une nouvelle Europe, c'était le sauveur de la civilisation occidentale, etc. Vraiment des choses qui aujourd'hui nous dépassent, mais qui imprégnaient l'esprit de ces gens-là.
Au point d'ailleurs qu'ils se sont vraiment battus avec un acharnement insensé. Très peu ont déserté, et ils se sont battus en Poméranie, restait quasiment plus rien. Et qu'est-ce qu'on fait venir à Berlin en avril 1944, au moment où tout est fini? Qu'est-ce qui fait partie des derniers défenseurs du bunker de Hitler dans lequel Hitler s'est suicidé? Ce sont les Français de la division Charlemagne. Ça, c'est insensé aussi, Pierre Jolito.
On a un peu du mal à le dire, parce que c'est pas glorieux pour la France, mais c'est vrai que les derniers défenseurs du bunker de Hitler, c'était ce qui restait de cette fameuse Charlemagne. Alors là, ça a été atroce. On a des récits de ces opérations où le but de ces quelques Français qui étaient là, dirigés par Fenet, était d'empêcher les Russes d'atteindre le bunker d'Hitler. Mais ils faisaient des retraits successifs, continuels, et puis ça a été un massacre.
Vous parlez de Fenet qui était un des derniers, un des plus célèbres aussi de ces membres de la division Charlemagne, et Fenet qui, après la guerre, n'a pas regretté quoi que ce soit. Écoute, c'est ce qu'il m'avait dit lorsqu'en 1989, c'était bien après la guerre, je lui ai demandé s'il regrettait d'avoir participé à la division Charlemagne.
Si la guerre s'était terminée autrement, que la victoire ait été de notre côté, croyez-vous que j'aurais regretté?
Autrement dit, vous
n'aurez... Par conséquent, il n'y a pas à se culpabiliser. Je n'ai qu'un seul regret, voyez-vous, après coup. C'est de ne pas m'être engagé plus tôt.
Fenet, qui est maintenant mort depuis quelques années, c'est assez effrayant quand même ce que l'on entend, de ne rien regretter. Il faut dire, vous le rappelez aussi Pierre Jolito, que les peines, ces gens-là, évidemment, ont réussi à s'enfuir par le métro de Berlin, mais en France, évidemment, ils étaient attendus par la justice. La justice a été assez indulgente avec eux, puisqu'ils ont eu entre 5 ans de prison et 20 ans de travaux forcés. Et puis, ils ont été libérés dès le début des années 50, sauf les anciens miliciens qui, eux, comme Bassompierre, ont été fusillés.
C'est ça, effectivement. Ce qui aujourd'hui nous paraît peut-être un peu curieux, à la limite, c'est que alors que les miliciens ont été très rudement frappés et nombreuses condamnations à mort, il suffisait d'ailleurs d'être milicien pour être condamné à mort, les membres de la LVF ou de la Charlemagne, il y a eu une espèce d'indulgence des jurys à leur égard.
Ils ne sont jamais battus contre les Français, il faut le rappeler. Ils n'ont pas participé à la persécution des Juifs.
C'est essentiellement cette raison-là. Oui. Ils ne se sont pas battus en France contre des Français. Ils se sont battus au loin contre des étrangers. Bon, ça paraissait moins grave. Et puis aussi, ils ont beaucoup souffert. Ils en ont bavé énormément. Ils ont laissé sur le chantier de nombreux morts.
Oui. Enfin bon, ils sont aussi, parce que même si l'on y est, ils ont aussi, on peut le dire, trahi. On ne peut pas porter l'uniforme du pays, qui est de l'armée du pays qui vous occupe, évidemment, sans faire preuve de trahison. D'ailleurs, ils n'avaient pas le besoin de trahir, puisqu'au fond, ils étaient devenus, comme le disait Pierre Dac, d'une certaine manière, allemands. Vous êtes, Pierre Jolito, je le rappelle, l'auteur du livre « Volontaires français sous l'uniforme allemand », publié aux éditions Perrin dans la collection Timpus, ainsi que d'une histoire de la milice, publiée chez le même éditeur. À lire également « Le régime de Vichy » d'Henri Rousseau, au Presse universitaire de France, dans la collection Que sais-je. Vous avez pu entendre plusieurs extraits des archives de guerre, issus de ce que les Français ont vu dans les salles de cinéma par Marc Ferraud, disponible en DVD aux éditions INA Nouveau Monde. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Pascal Baldassari et Yann Bouillot. Documentation et archives INA, Claire Destacan et Emmanuel Fournier. Une réalisation de Anne Comilac.
Inter, partenaire du festival Art Rock à Saint-Brieuc du 25 au 27 mai. 3 jours, plus de 40 spectacles.